11h23, vous êtes sur les ondes de Boulevard 101 avec vous jusqu'à 10h. Mon nom c'est Marceau, son nom à lui c'est Jeff Fortin, Max Larouche qui est sur le gun, tout ce qui se passe dans l'actualité. Vous devez suivre Max. Max travaille très fort. Vous avez des choses à lui dire pour ce qui est de la circulation, c'est le 418-971-1021. 418-971-1021 actuellement. Max, comment ça se passe?
C'est très mollo. Là. Comme je disais un peu plus tôt, j'ai l'impression que les gens sortiront pas trop aujourd'hui avec ce qui s'en vient côté météo. Mais pour l'instant, pour ceux qui doivent absolument sortir, là, c'est super beau sur les routes.
Max, la question que tu me poses, c'est est-ce que c'était parfait? La réponse, c'est non. Est-ce qu'on peut faire mieux? La réponse, c'est oui.
On peut toujours faire mieux.
On peut toujours faire mieux.
Je ferais bien les écoles fermées, mais...
Non,
faire les écoles fermées, je parle pas de faire un rap, je parle de faire ma job.
Hier, je l'ai appelé, Jeff.
Puis tu as dit,
là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Pas de rap. Il dit, je suis en train de composer mon rap pour demain matin.
Non,
interdiction.
Je compose rien, moi. Je fais du freestyle. J'ai même pas besoin de composer, là. Mais c'est beau, tu veux pas l'entendre. Soyez là à 10h dans le point de Max. Je fais ce que je veux
tu
dans
vas...
le point de Max.
Ben ouais, mais je veux dire, les écoles, tout le monde va savoir que les écoles sont fermées à 10h.
Je m'en fous, je donne un spectacle.
C'est comme quand il va au karaoké, ouais. Il se fout de ce que le monde pense.
Ouais.
Il donne un spectacle.
T'as-tu une première partie de ton spectacle?
Ben, c'est nous autres.
Okay.
C'est ce qu'on fait jusqu'à 10h, puis à 10h, c'est le vrai show.
C'est le vrai show, le vrai rap de la fermeture des écoles. Tout ça est parfait. 6h24, Max, on s'en va aux nouvelles.
Les news, 102.1.
En ce 11 mars, tu nous parles de quoi ce matin?
Bien, c'est sûr qu'on surveille ce qui se passe à la météo. Évidemment, c'est le gros sujet du jour. Puis pour ce qui est des écoles fermées, pour vrai, je pourrais bien toutes vous nommer. Mais c'est un peu ça le point, c'est que...
Tout est fermé.
C'est plus rapide si... Y en a-tu 418-971-1021 qui disait hey, « Colin, moi, c'est ouvert. » Si oui, informez-moi-en, parce que la liste que j'ai est longue pas mal de ce qui est fermé. Fait que sinon, dans les nouvelles, le coloré homme d'affaires Jean-Noël Sarteau-Lacroix qui a annoncé à mettre son entreprise Armoire PMM en faillite. Il dit vouloir redonner tout ce qui va sauver aux Québécois, lui qui refuse notamment de payer les prêts de 500 000 $ en amende qu'il doit à la régie du bâtiment du Québec. Il dit « On a décidé de faire justice nous-mêmes, esti, en mettant Armoire PMM, esti, en faillite. Vous aurez rien, tiens, vos amendes, fuck you, esti. » Selon les...
Déjà, c'est quoi ce papier-là?
Ce papier-là, je voudrais mettre de quoi au classe, s'il te plaît, avant que ça sorte dans les médias. On a mis Armoire PMM en faillite pour une question de stratégie, en passant. Tous les clients qui ont été faits par Armoire PMM vont honorer la garantie par mon petit bébé 9999. Ne soyez pas inquiets. En passant, là, on peut pas gagner contre un tribunal administratif. Ben, c'est des juges de fond de cours qui sont pas capables de prendre aucune décision dans la vie. Mais on a décidé de faire justice aux testés. En mettant moi PMM, c'est en faillite. Vous aurez rien. Tenez vos amendes. Fuck you, esti. Au lieu de donner à la population que de donner à vous autres, esti. Vous crossez le monde partout. C'est non, esti. Tout ce que je vais avoir sauvé avec la faillite, là, les Québécois, je vais vous le redonner à vous autres à la place, esti. Parce que moi, là, l'injustice, je suis contre ça au Québec. Esti, à faire le tour du Québec au complet, savoir comment que le monde soit dans le besoin, esti. Je suis partout. J'ai dit, moi, je vais continuer à donner. Mais pas au gouvernement. Ces astis pourris là, c'est là. Restez prêts pour 2026. J'ai jamais vu ce qui s'en vient. On va annoncer quelque chose de très, 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 très gros prochainement.
En rappelant à tout le monde que c'est encore interdit de couper les cordes vocales de votre chihuahua. Je sais pas pourquoi je dis ça là, mais c'est...
Comme ça.
Ouais, exact.
Selon les documents de faillite obtenus par le bureau d'enquête du journal, Jean-Noël Lacroix, qui a déclaré des dettes totales de 3,2 millions avec Armoire PMM, il promet à ses clients, comme vous l'avez entendu, là, qu'il va honorer les garanties d'Armoire PMM via son autre entreprise. Les propriétaires du salon de coiffure Station 10 vont contester leur condamnation à payer 500 $ à cette personne non-binaire qui s'était plainte de discrimination parce qu'il devait choisir une coupe homme entre une coupe homme et une coupe femme au moment de faire sa réservation. C'est Radio-Canada qui a parlé à un des proprios. Ce qu'on peut lire, c'est que c'est les nombreuses réactions face à l'histoire qu'ils ont convaincu de finalement de « Hey, on change d'avis, là. On va y aller en appel, on va être soutenu financièrement par l'industrie des coiffeurs. » Stéphane Roy, qui est président de l'Association Coiffeurs Québec, estime que les coûts liés à l'appel de décision pourraient aller jusqu'à 10 000 $. Il y a une campagne de financement qui va être lancée aujourd'hui pour couvrir ces frais. Là, Radio-Canada note qu'un cabinet d'avocats a accepté de travailler pro bono sur cette affaire-là, ce qui limitera les coûts. Alexis Labrec, qui est copropriétaire de Station 10, lui explique qu'il y avait des avocats de l'extrême droite qui voulaient les représenter gratuitement, mais le salon ne voulait pas s'associer à eux pour demeurer le plus neutre et le plus centre politique possible.
Des avocats d'extrême droite.
Ouais.
Wow.
Après les trois conservateurs, Chris D'Entremont, Michael Ma et Matt Gentry, c'est au tour d'une néo-démocrate de sauter à la clôture puis de passer au Parti libéral du Canada. La députée de la circonscription de Nunavut, Laurie Idlout, qui a annoncé hier qu'elle joignait le parti au pouvoir. Les libéraux de Mark Carney qui se retrouvent donc maintenant à deux petits sièges de la majorité et ils devraient atteindre cette majorité-là le 13 avril parce que selon les projections pour ce qui est des élections partielles, le Parti libéral va aisément conserver les circonscriptions de Scarborough Southwest et de University Rosedale. Et dans Terrebonne, la lutte qui sera chaude entre le Bloc québécois et les libéraux là, pour peut-être même aller chercher une majorité un petit peu plus confortable. Bruno Marchand va participer à une mission économique à Détroit, au Michigan, du 10 au 12 mai prochain. La mission en collaboration avec Québec International qui aura pour but d'ouvrir des portes à des entreprises de Québec qui pourraient voir un marché potentiel au Michigan. Faut savoir que le Québec et le Michigan sont déjà de bons partenaires d'affaires. On partage à peu près 5 milliards en échanges bilatéraux. Les entreprises intéressées à participer à la mission qui peuvent se manifester auprès de Québec International. Rappelons que la semaine prochaine, Bruno Marchand va quitter vers l'Alberta, à Edmonton et à Calgary pour une mission là, vraiment axée sur les infrastructures, fait que entre autres tout ce qui est transport, notamment tramway.
Oui, vous avez raison. Est-ce qu'on doit faire mieux? Oui.
Voilà.
Et je termine avec ça. On est maintenant habitué les 20 000 laissés-passer de la prévente des jardins à l'aveugle du Festival d'été de Québec qui sont partis en quelques petites minutes hier midi. Les 105 000 laissés-passer restants qui seront mis en vente dès midi aujourd'hui, au même moment où la programmation du FEC 2026 sera dévoilée. Le prix régulier qui est établi à 180 $.
En prévision de la tempête de verglas, on a pensé jaser avec notre conseiller préféré en communication chez CAA Québec, c'est Simon Bourassa. Salut Simon.
Salut Yannick.
Comment on se présente chez CAA Québec ce matin? Là, y a-tu des équipes à la grandeur du Québec? Tout le monde est en alerte? Faites-vous du télétravail? Comment ça se passe?
Bien, il y a toujours des équipes à la grandeur du Québec. Nous, une situation de verglas comme ça, tu sais, c'est pas l'hécatombe particulière, là, tu sais, c'est sûr qu'on s'attend à un certain nombre d'appels. Par contre, il y aura beaucoup de monde en télétravail, là, du côté de la population chez nos membres, là. Fait que, tu sais, on s'attend pas non plus à être débordé. On n'est jamais vraiment débordé. On répond toujours à tout le monde dans des délais raisonnables. Mais voilà, ce qui nous fait mal, nous, c'est vraiment quand il y a du gros froid, là. Donc, les demandes de survoltage, là, ça, c'est vraiment quelque chose qui sollicite davantage nos équipes. C'est là qu'on met plus d'effectifs sur le terrain, qu'on est davantage présent. On a plus de gens aussi en centre d'appel pour prendre les appels des membres. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on s'attend à un certain nombre d'appels en raison de l'état des routes. D'ailleurs, nos patrouilleuses, patrouilleurs empruntent les mêmes routes que tout le monde. Donc, on se téléporte pas encore. Donc, c'est possible, effectivement, qu'il y ait certains délais dans certaines régions, là où vraiment les conditions se sont particulièrement détériorées. Parce que là, ils n'annoncent pas la même chose partout, vraisemblablement.
Mais vous êtes plus sollicité quand c'est vraiment des gros froids que quand c'est des épisodes de verglas comme ça. J'aurais pensé qu'avec les sorties de route qu'il y aurait, vous auriez autant de problèmes.
Non, c'est ça, c'est vraiment parce que sortie de route, tu sais, quand ça survient sur des grandes artères, autoroutes, routes numérotées, ces trucs-là, souvent les gens vont avoir tendance à appeler les services d'urgence, hein, ce qui est une bonne chose à faire d'ailleurs, plutôt qu'un service d'assistance routière. Parce que ben c'est pour éviter que l'accident empire et tout ça, devant les services d'urgence, services de sécurité arrivent sur place quand ça se passe sur des grandes artères. Mais quand on parle de grand froid et que un lundi là, du mois de janvier à moins 28, que tout le monde veut partir au bureau en même temps à 7 h, c'est là que nous, on est particulièrement sollicités.
Simon, qu'est-ce qu'on doit faire si je suis un travailleur essentiel puis que j'ai pas le choix de me rendre au travail? Où je m'informe sur l'état des routes? C'est quoi les précautions que je dois prendre sur la route pour éviter un accident?
À la radio, c'est très bien. On est pas pire là-dessus.
Oui, ouais. Les médias de proximité comme la radio, Boulevard 102.1, par exemple.
Ah, c'est une belle station, ça!
Toujours bien. Il y a le Québec 5.1 avec l'état des routes qui est à jour pas mal tout le temps et d'actualité. Puis si vous n'avez pas le choix, ben faut adapter sa conduite absolument. Là. Ça c'est clair. S'il y a des risques de dérapage sur des routes glacées avec le verglas, là, le but, c'est si on dérape, si on sent que la voiture, on en perd le contrôle. Faut pas faire de mouvement brusque, ni avec le volant, ni avec les freins, là. C'est le pompage de freins, c'est pas tout à fait vrai, ça. Donc, on regarde où on souhaite diriger notre véhicule aussi, là, plutôt que les obstacles qu'on va essayer d'éviter. On va essayer d'éviter la trajectoire des autres véhicules aussi, là, en se dirigeant vers l'accotement le plus possible. Donc, essayer de viser l'accotement. Là, il y a l'avant du véhicule qui peut déraper. Donc, ça, c'est le sous-virage. Donc là, à ce moment-là, on réduit la pression sur l'accélérateur, même sur la pédale de frein aussi, puis on braque les roues dans la direction de la courbe qu'on essayait de prendre. Et on regarde là où on souhaite enligner le véhicule. Si jamais c'est l'arrière du véhicule qui dérape le survirage, à ce moment-là, ben, on tourne les roues dans la direction vers laquelle l'arrière a commencé à déraper. Donc, un peu contre-intuitif, là, mais ça demeure des conseils qui pourraient vous permettre de retrouver la maîtrise de votre véhicule, toujours en regardant dans la direction où on veut aller. Distance de sécurité aussi, là, si on s'entend, on en garde toujours une plus grande en hiver avec le véhicule qui nous précède, ben là, c'est d'autant plus important. Oubliez le régulateur de vitesse, le cruise control, là, même si vous avez de la longue route à faire, on sait jamais ce qui peut se produire un peu plus loin. Vous pouvez passer sur une surface glacée. À ce moment-là, le cruise control, bon, c'est pas la bonne chose à avoir pour garder la maîtrise de votre véhicule. Donc, quelques petits trucs comme ça. Je sais qu'il y a bien des gens qui ont tendance à relever les essuie-glaces sur leur pare-brise pour éviter d'avoir à zigonner, si vous me passez l'expression, une fois que pour pouvoir reprendre le véhicule puis le déneiger. Nous, on conseille pas ça. Il y a une pression qui est faite par un système de ressort.
Sur les ressorts, oui.
C'est ça, pour garder les lames bien collées sur le pare-brise. Là, ça risque d'endommager vos essuie-glaces.
Simon, si tu me permets, on va demander à notre expert en automobile, Max Larouche. Partir de quand on peut mettre nos pneus d'été?
C'est le 15 mars.
Le 15 mars. Donc, on est quelle date, là?
Le 11 mars.
Ce qui veut dire que dimanche, techniquement, ce serait légal de mettre des pneus d'été. Y a-t-il encore des fous qui font ça le 15 mars?
Ben, il y a des gens qui le font le 15 mars. Il y a des gens qui sont bien pressés de mettre leurs beaux pneus d'été. ils prennent leur rendez-vous le 15 là, ou par la suite. Mais tu sais, l'UTT de cette tempête, là, aujourd'hui, ça s'en venait bien. Là. Les choses s'en venaient très bien. Donc, il y a peut-être des gens qui ont leur rendez-vous la semaine prochaine. Là, c'est de voir si... effectivement, il y a des intempéries qui s'en viennent, mais tu sais, c'est les gens qui ont des VUS, souvent ils vont se faire installer leurs pneus d'été, mais leurs pneus d'été sont des pneus 4 saisons. Ouais. Sont-ils des pneus 4 saisons homologués hiver, là, ça reste un autre dossier, mais quand même.
Mais le 15 mars, Simon, je trouve ça beaucoup trop tôt. Lundi, là, moi et Jeff, on s'en est vers la station. Il devait être autour des 4h du matin, puis on avait l'impression de rouler sur des flaques d'huile, là, alors qu'on était en pneus d'hiver. Pas sûr que la semaine prochaine, ces mêmes conditions-là pourraient pas se faire.
Non, c'est une date qui a été mise là, qui a changé avec le temps, qui est toujours sujette à débat à chaque année. D'ailleurs, on devrait-tu reporter la date, on devrait-tu la laisser là. Je pense que les gens, dépendamment de l'endroit où ils habitent, puis la façon dont ils ont à circuler en fonction de la météo, sont bien au fait de quand prendre leur rendez-vous pour leur pneu d'été. Là. Mais c'est sûr que pour la semaine prochaine, c'est peut-être un peu prématuré.
Ouais, mais cette semaine, c'est une belle date, par exemple, pour réserver notre place dans quelques semaines.
Ben oui, même que oui, là, commencer à le faire pour vrai, là. Faut commencer à y penser très sérieusement pour faire installer ça au mois d'avril. Parce que sinon la cohue dans les centres va s'installer. Puis si vous avez votre rendez-vous, ça vous êtes rendu au mois de juin pour votre rendez-vous pneus d'été, c'est peut-être tard.
Ouais, il est peut-être un peu trop tard. Ça se peut que tu fasses fondre tes pneus en roulant avec ça. l'été. Merci Simon.
Merci, messieurs. Bonne journée.
Simon Bourassa, conseiller en communication chez CAA Québec, qui nous parlait justement de cette possible tempête de verglas qu'on pourrait avoir dans les prochaines heures. Jeff nous disait que ça allait arriver dans la région de Québec aux alentours de midi. On avait de l'information tantôt dans un secteur de Trois-Rivières. Là, c'était encore à l'ouest de Trois-Rivières, mais ça s'en venait vers Trois-Rivières. Il y avait un épisode de verglas dans ce secteur-là. Sinon, ça se déroule beaucoup plus sur la rive sud, à la hauteur de Drummondville. Là. Il y a un peu de verglas, des averses de neige aussi au travers de ça. C'est ce qu'on me rapportait tantôt et c'est ce qu'on peut voir sur les radars d'AccuWeather. 6h37, les sports.
Les sports.
Max Larouche.
Victoire de 3-1 du Canadien de Montréal face aux Maple Leafs hier au Centre Bell. Oliver Kapanen, Philippe Dano et Jake Evans qui ont marqué 17 arrêts sur seulement 18 tirs pour Jakub Dobesch. Quelques gros arrêts, mais pas une soirée ben occupée. Le Canadien qui affronte les Sénateurs à Ottawa ce soir dans un match de 4 points dans la course aux séries. D'ailleurs, parlant de course aux séries, la victoire d'hier du Canadien qui lui permet d'accéder au troisième rang de la division Atlantique, ce qui est, une bonne nouvelle, entre guillemets. Cela dit, c'est tellement serré que ça peut bouger pas mal chaque soir, là. Particulièrement parce que quand on regarde ce qui s'est passé hier dans la LNH, les Blue Jackets de Columbus ont battu le Lightning, les Bruins ont battu les Kings, les Sabres ont battu les Sharks et les Islanders ont battu les Blues. Ça, ce que ça veut dire, c'est que toutes les équipes pas mal là, dans la course aux séries avec le Canadien ont gagné. Hier, il y a les Red Wings qui l'ont échappé face aux Panthers. Mais à part ça, toutes les équipes rivales directement du Canadien qui gagnent ces temps-ci. Fait que c'est pas une super bonne nouvelle. Dans la NFL, immense coup de théâtre hier soir. Le joueur étoile Max Crosby, qui est plus qu'un joueur étoile, en fait, c'est un joueur franchise. Lui, il y a quelques jours, il a été échangé des Raiders de Vegas aux Ravens de Baltimore pour 2 choix de première ronde. Ben finalement, hier, on a dit « Hey, one minute, il n'y en a plus de transactions. » Les Ravens qui auraient reculé après que l'état de santé de Crosby n'ait pas été assez concluant à leur goût. Fait que les Ravens qui repognent leurs 2 choix de première ronde, les Raiders qui restent pognés avec Max Crosby, mais là, ils ont signé un paquet de joueurs au marché des agents libres. Fait que là, au niveau de la masse salariale, ça pourrait être problématique. C'est très particulier comme situation. Au basketball, soirée pratiquement historique dans la NBA, Bam Adebayo qui a récolté 83 points dans une victoire de 150-129 du Heat de Miami sur les Wizards de Washington. 83 points en un match, là, c'est le deuxième plus haut total de l'histoire de la NBA. Il y a juste Will Chamberlain qui a fait mieux en 1962 avec 100 points. Comme je dis, c'est pratiquement historique.
Ouais, puis ce qui est particulier, c'est que Ben Adebayo n'est pas nécessairement un marqueur naturel. C'est un joueur de centre qui va s'imposer sous le panier. Un excellent joueur au rebond, mais on l'a rarement vu faire des performances de 30 points et plus. Donc, ça sort vraiment de nulle part, cette performance-là d'Abedayu avec le Heat de Miami.
Et en terminant au baseball, une autre affaire qui sort un peu de nulle part, on est dans la classique mondiale de baseball en ce moment, puis c'est quelque chose dont je me fous un peu, bien honnêtement. Mais là, ce qui fait jaser, c'est que l'Italie, hier, a causé ce qu'on qualifie d'une des plus grandes surprises de l'histoire du baseball en ayant le dessus 8-6 sur les États-Unis. L'Italie au baseball. Ah oui. Qui bat les States, okay. 8-6.
Que c'est les meilleurs joueurs des États-Unis qui sont là?
Oui.
Oui.
Fait que c'est vraiment le Miracle on Ice que les États-Unis ont fait contre la Russie qui s'est passé en tournoi en ronde préliminaire ce moment-là, donc pas en finale. Mais
L'Italie.
L'Italie serait censée manger une race par 10 points.
Ils menaient 8-1 à un certain point dans le match. Les States qui ont remonté jusqu'à 8-6, mais qui ont manqué de jus. Fait que toute une histoire.
Moi, j'aime ça, les histoires d'underdog. 6h41, on fait une courte pause. Max, sur la route?
C'est beau pour l'instant.
Pour nous informer de ce qui se passe,